Bonjour Brice Couturier.
Bonjour Éric Delvaux.
Vous êtes journaliste et producteur à France Culture, essayiste. Vous avez également été rédacteur en chef du Monde des Débats. Et vous signez donc ce livre que j'ai entre les mains pour tenter de comprendre d'où parle l'actuel chef de l'État, comment il a été influencé par plusieurs courants de pensée. Ce livre s'appelle « Macron, un président philosophe », en précisant qu'aucun des mots d'Emmanuel Macron n'est le fruit du hasard. À propos de hasard, d'ailleurs, dès les premières pages, vous réfutez ce hasard dans le parcours d'Emmanuel Macron. Vous préférez parler de destin. Avec quels outils Emmanuel Macron se serait-il forgé un destin?
Si vous voulez, ce qui m'a frappé, moi je suis journaliste politique, mais je suis pas journaliste politique, je suis journaliste culturel. Donc moi, ce qui m'a intéressé chez Macron, quand j'ai vu ses premières interviews paraître, à l'époque il était encore ministre de l'économie dans l'hebdomadaire Le 1, j'ai vu qu'on avait affaire à quelqu'un qui s'était construit intellectuellement de manière extrêmement rigoureuse et cohérente. Et j'ai voulu tirer à travers ce livre les fils du macronisme, ce qui fait sa fameuse idéologie. J'ai cherché dans sa biographie, dans sa formation intellectuelle, ce qu'il avait pu le marquer. Bon, tout le monde sait l'influence que Ricoeur a pu exercer sur lui. Paul Ricoeur, le philosophe Paul Ricoeur, et dont il a été l'assistant pour un livre, La mémoire, l'histoire, l'oubli. Mais par ailleurs, il avait aussi fait des études de philosophie, ce qui est très étonnant pour un chef d'État chez nous aujourd'hui, ces derniers temps. On a eu affaire à des énarques qui savent très bien gérer l'État, mais qui ne savent pas penser la rupture. Quand on est habitué à gérer un État, on peut extrapoler à partir d'une situation qu'on connaît, on a beaucoup de mal à imaginer la rupture. Or, nous vivons une époque de rupture, enfin de crise politique en France et de rupture pour le monde. Et j'ai trouvé que Macron était bien équipé pour ça. Enfin, j'ai voulu savoir ce qu'il avait derrière, si vous voulez, ce qu'il avait dans le ventre. Encore un truc, beaucoup d'hommes politiques m'ont fait l'impression, quand je les ai rencontrés au micro de France Culture, de vivre au-dessus de leurs moyens sur le plan intellectuel et culturel. C'est-à-dire de faire les fameuses citations que tout le monde connaît, de Jaurès, etc., quand ils sont de gauche, de Gaulle quand ils sont de droite, sans avoir jamais rien lu. Chez Macron, j'avais le sentiment de quelqu'un qui cachait quelque part une formation intellectuelle et une réflexion politique assez poussée, mais qui, parce qu'il essayait de se faire élire, avait besoin de ne pas montrer tout. Alors moi, j'ai cherché à voir ce qu'il y avait dans la machine, ce qu'il y avait dans le soubassement idéologique.
Dans le parcours, avant l'ENA, avant Sciences Po, Emmanuel Macron a suivi effectivement des cours de philosophie à Nanterre. Il a lu Kant, il a lu Aristote, il a lu Descartes, et puis il a rédigé un mémoire de DEA, c'est-à-dire avant le doctorat, un mémoire sur Hegel, et donc sa pensée post-révolutionnaire. En quoi Macron a-t-il été d'abord un jeune hégélien de gauche, pour reprendre le titre d'un de vos chapitres?
Oui, il a fait son fameux DEA sur la raison dans l'histoire. Et ça montre bien que c'est quelqu'un qui s'intéressait déjà à la philosophie politique du côté de l'hégélianisme. Ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est de voir ce qui reste d'hégélien chez Macron. Honnêtement, pas grand-chose, parce que, comme il l'explique lui-même dans cette fameuse interview au 1, à l'hebdomadaire Le 1, il a été désintoxiqué, c'est le mot qu'il emploie, de l'hégélianisme.
Par Paul Ricoeur.
Par Paul Ricoeur. Mmh. Et il faut savoir que Ricoeur, précisément, c'est un des meilleurs critiques et déconstructeurs de Hegel. Et je suis persuadé que les fameuses matinées qu'ils ont passées ensemble, le vieux philosophe et le jeune
à Châtenay-Malabry.
Dans la maison de Paul Ricoeur. Ça parlait beaucoup de Hegel. Vous savez, Ricoeur, comme par hasard, a succédé à Hippolyte à l'université de Strasbourg quand il a commencé sa carrière universitaire. Or, Hippolyte, c'était le grand hégélien français. Et je suis persuadé que Ricoeur, s'il a écrit tellement de pages lumineuses pour expliquer en quoi Hegel était complètement à côté de la plaque, c'est précisément parce qu'il avait affaire à des étudiants qui avaient été formés ou déformés par Hegel. Hegel, c'est terriblement absolutiste. Quand vous êtes informé dans ce système de pensée, c'est très difficile d'en sortir. Je suis persuadé, et puis j'ai quelques preuves, que Macron a été hégélien. Et même marxiste. Il était l'élève de Balibar.
Hein. Cela dit, Hegel, c'est aussi l'esprit des peuples, et ça, c'est un marqueur important quand on veut diriger un pays.
Hein. Exactement. Si vous voulez, j'ai le sentiment qu'on a affaire à quelqu'un d'extraordinairement ambitieux, qui, dès le départ, avait l'idée que quand on veut intervenir dans la vie politique au niveau qu'il s'était fixé, il faut avoir une pensée, la big picture, vous voyez, comme disent les anglo-saxons. C'est-à-dire une pensée du monde tel qu'il est et des mutations en cours, et pas seulement, encore une fois, être capable d'extrapoler à partir du passé comme était été capable, comme on était capable ses prédécesseurs.
Et puis Emmanuel Macron a bien retenu aussi les préceptes de l'un de ses mentors en politique, Michel Rocard, quand il déplorait la prise du contrôle du temps politique par les médias.
C'est un peu ce qui est arrivé, le malheur de Sarkozy et de Hollande, ses deux prédécesseurs. C'est des gens qui, en permanence, ont dû réagir au coup par coup aux injonctions médiatiques. La grande idée de Macron, c'est qu'il faut articuler le temps court, celui de la réponse effectivement aux questions qui se posent, avec un temps long, celui de la réflexion, celui de ce qu'il appelle la chouette de Minerve. Et ça, il l'a trouvé chez Hegel, évidemment. Il en fait référence dans son discours sur l'Europe à la Sorbonne. La chouette de Minerve, c'est l'idée qu'il faut réfléchir à son action après coup, parce qu'elle prend sens, l'action politique, les événements ne prennent sens que longtemps après, quand on est capable de les interpréter. Très peu d'hommes politiques se posent ce genre de questions. Ils vivent tous dans l'instantané. Ils sont prisonniers des télévisions d'information en continu, des petites phrases, des stratégies de communication. Ils ont pas la big picture. C'est ça qui manque. Barack Obama l'avait, lui.
Oui, Barack Obama, d'ailleurs, ce matin, on fait pas mal de comparaisons à la faveur de sa venue à Paris. Le JDD parle de Obama-Macron en essayant de faire un parallèle entre les deux hommes. Qu'est-ce qui les rapproche? C'est le goût des générations et le goût de la communication aussi?
Il y a surtout dans les deux cas des gens qui sont conscients qu'on vit une crise grave qui est celle qui se traduit par la montée du populisme. Et que du coup, le monde libéral, ordonné, rationnel, qui était le nôtre en Occident, en tous les cas jusqu'à ces derniers temps, est en train de basculer vers quelque chose d'autre d'assez inquiétant. Obama, il a transmis le flambeau à Merkel, vous vous souvenez, quand il l'a rencontré, quand Trump a été élu. Et je pense que Macron fait aussi partie de ces hommes et femmes politiques qui savent qu'effectivement, il y a une crise de la démocratie libérale et qu'il faut la défendre. Mais il ne faut pas la défendre simplement en revenant en arrière. Il n'y aura pas de retour en arrière à ce qu'on a connu il y a 20 ans. Il faut aller vers quelque chose d'autre.
L'avenue d'Obama, on en reparlera dans un instant dans la revue de presse de Frédéric Pommier. On va revenir à Paul Ricoeur. La différence entre Paul Ricoeur et Emmanuel Macron, c'est que Paul Ricoeur n'a jamais renié ni le socialisme, ni l'engagement de gauche. C'est pas le même parcours chez Emmanuel Macron.
Il a toujours dit dans ses interviews qu'il se considère comme de gauche. Il se considère comme de gauche.
Emmanuel Macron, il se dit et de gauche et de droite en même temps.
Moi, j'ai quelques citations.
En même temps d'Emmanuel Macron.
Il appartient à ce qu'on appelle aux États-Unis le centrisme radical. Comme Tony Blair, si vous voulez, comme Tony Blair aussi se réclamait d'un centrisme radical, mais venait quand même du Labour dont il avait pris la tête. Et Macron aussi est un homme de gauche. Il a jamais été élu nulle part, justement. Et c'est ça sa particularité. Mais il était le ministre de François Hollande, quand même. Et puis il était au comité de rédaction de la revue Esprit, c'est-à-dire que ça le marque quand même dans une gauche. Il est très évidemment l'héritier de la deuxième gauche rocardienne. Il a été le protégé de Michel Rocard et de ses réseaux. C'est les réseaux rocardiens qui ont fait Macron. C'est pas la finance.
Vous le dites aussi dans votre livre, Macron aurait aimé qu'on le considère comme un maverick, c'est-à-dire un non-conforme, un dirigeant hors des partis politiques. C'est quelqu'un qui veut se situer ailleurs, donc il n'y a et de droite et de gauche.
Si vous voulez, il a fait. En tous les cas, il gouverne au centre, ça c'est certain. Il gouverne au centre parce qu'il a fait venir des gens de la gauche et de la droite. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, on vit ce que Jacques Julliard appelle un moment saint-simonien aujourd'hui. C'est-à-dire que les extrémistes de gauche et de droite sont devenus tellement forts, 20% chacun, et les partis de gouvernement tellement faibles, 26% à eux deux au premier tour des présidentielles, qu'il y a un moment dangereux. Donc le moment dangereux, ça implique qu'on dépolitise les questions, qu'on fasse du déminage idéologique et qu'on essaie de poser les questions en termes techniques. En termes rationnels précisément. Et c'est ça, ça donne un gouvernement effectivement où vous avez à la fois des ministres qui viennent de gauche et des ministres qui viennent de droite, mais qui s'entendent sur un projet de réforme assez cohérent.
Et c'est pas pour autant qu'il faut placer Emmanuel Macron comme un centriste. On en reparlera probablement avec les auditeurs dans un instant. Brice Couturier, on va reprendre cet entretien après la revue de presse de Frédéric Pommier. Il y aura également, j'espère, les questions des auditeurs. Questions de sciences politiques ce matin. Vous appelez au 01 45 24 7000. Je rappelle le titre de votre livre, Brice Couturier, ça s'appelle « Macron, un président philosophe » et ça paraît aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite.